Cet épisode de La Teille a été enregistré avant le confinement. C'est pourquoi il n'aborde pas l'actualité du moment. Salam alaikum wa alaikum salam. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans La Teille. La Teille, ça veut dire le thé en arabe. La Teille, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Teille, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans La Teille. Aujourd'hui, je suis avec un casting 5 étoiles, comme dirait Sidox. Amel, comment tu vas ?
Ça va bien et toi ?
Bah écoute, ça va très très bien. Ziad ?
Moi ça va aussi, alhamdoulilah.
Théophile ?
Bah on est à l'an.
Sidox ?
Tout est top.
On va rentrer dans le vif du sujet là tout de suite. Aujourd'hui, le thème c'est hypocrisie et misogynie. C'est un thème qui est hyper large, qui est assez touchy, hyper tabou.
Touchy.
on va essayer de brasser le plus de choses possible, de pas être trop hors contexte et voilà. Moi, j'aimerais vous demander d'abord quand on dit hypocrisie, misogynie, enfin d'abord hypocrisie, à quoi vous pensez ? Genre, c'est quoi le premier truc qui vous vient en tête ?
Si, il pense deux fois. le racisme. Oh là là. En fait, pour les Arabes de Arabes. Ouais, pour les Maghrébins de France que nous sommes, la team Hlib. Tu vois le délire ? Genre nourrir et vivre le racisme alors qu'on en est victime et qu'on s'en plaint et qu'on lutte contre ça, c'est l'hypocrisie qui me rend le plus malade
mais
au monde.
Je pense que c'est même pas des gens je sais même pas s'ils sont hypocrites, parce que je pense que c'est des gens qui s'en foutent, tu vois. Je pense que c'est pas des gens qui sont en mode y a du racisme en France ou des trucs comme ça. Je pense que c'est des gens, tu sais, qui sont en mode ah bah tu veux un truc, tu te bats. Tu vois ce que je dis?
Franchement non, je pense que c'est surtout des gens qui... Non. J'ai regardé une story de Bassem, c'était la première fois que je regardais une story de Bassem et la dernière, où il utilisait des propos qui m'ont choquée. Genre vraiment, genre j'ai trouvé que ses propos étaient d'une violence extrême. Ouais. Non, beurette à quel, blablabla, retourne voir tes King Kong, mais genre vraiment des propos archi... Ouais. En fait, je pensais pas que c'était aussi violent. Genre vraiment, c'était... Enfin, j'ai trouvé ces propos d'une violence inouïe. Et le snap qui suivait était un placement de produit pour des produits dopants pour durer plus longtemps au lit.
Mais
en fait, je me suis dit, tu vois, parce que genre Bassem, c'est genre quand même une figure maghrébine qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. Et je m'étais jamais intéressée au personnage et je n'aurais jamais dû m'y intéresser. Heureusement que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, j'espère que ça, c'est quelque chose qui sortira jamais des réseaux sociaux, tu vois. Mais en fait, ce qui m'a encore plus frappée, c'est en fait, c'est la force de frappe qu'il a derrière. C'est-à-dire que tout le monde est parti lyncher cette fille, tu vois. Tel point qu'elle a dû désactiver des réseaux et tout. Enfin, genre, ils ont trouvé son nom, son adresse, ils ont envoyé à son père, ta fille, c'est une beurette à crêle. Enfin, genre, c'est un délire, tu vois. Un délire, c'est parti archi loin. Et je me suis dit, c'est incroyable, exactement comme Sidax dit, qu'on est une communauté qui subit le racisme en France, qui subit l'islamophobie en France. Et on a des gens qui, entrecoupés dans des phrases entrecoupées de subhanallah, de starfallah, de je sais pas quoi, hurle un racisme qui est effrayant, tu vois. Et non, franchement, genre, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, genre, comment autant de personnes peuvent être derrière ce gars et suivre ce gars? Et en fait, même dans les gens qui le suivent pour le second degré, j'arrive pas à comprendre, tu vois.
Tu vois, le... en gros, bon là, petite confidence à nos auditeurs, j'étais moyennement inspiré, genre, par l'axe de l'épisode qui est hypocrisie, misogynie. Mais là, quand on a un exemple de cette pseudo-influenceur là, qu'on est en train de citer, ça, il compile tout ce qu'on est en train de tout ce qu'on va aborder là. Donc l'hypocrisie par rapport au racisme, la misogynie par rapport à des termes qui ne doivent pas être utilisés, des jugements, un placement en tant que guide, genre le bon vieux, il a une secte derrière lui.
C'est un gros,
apparemment il dit que, enfin, d'après les gens qui suivent, il dit qu'il est pas il met un machin qu'il faut pas l'écouter. Mais eux, ce qu'ils en écoutent, en fait, ils ont tiré un indo, frère. C'est un code de conduite. Voilà. Genre, gros, tu vis Bassem ou tu vis pas Bassem. C'est genre, c'est une passion, frère. C'est des ouf.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, genre, on est quand même sur un gars qui a 40 piges.
Il a un gosse en plus.
Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on se rend pas compte. Et les gens ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où t'as une présence médiatique, même si elle est toute petite, cette présence médiatique-là, elle influence les personnes. Et t'as des responsabilités. Un truc tout bête. D'ailleurs, Sidoc, je voulais t'en parler. À la fin de la projection de Footeuse avec Vraie Meuf, il y a une fille qui est venue me voir. D'ailleurs, je lui fais des bisous, Sarah. Et en gros, donc voilà, elle est venue me voir et tout, tu vois, parce qu'elle était venue voir le film et tout. Donc, on a un petit peu discuté et tout ça. Et elle était venue avec son père, tu vois. Et elle me dit, ouais, des fois, j'écoute la télé avec mon père et tout, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, waouh, nous aussi, en fait, on a une influence, tu vois, ouais, sur des personnes sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment on en arrive avec des personnages comme ça qui font le tour des réseaux sociaux. Mais après, genre, ça, je pense que c'est juste les réseaux sociaux, ouais, qui font qu'on aime bien mettre en avant des personnages qui sont un peu chelous, un peu bizarres, et leur donner beaucoup trop de crédit. Mais ouais, à partir du moment où t'es là, t'as une conscience, t'as une prise de position, t'as une influence médiatique, en fait.
Mais tu vois, quand on met en lumière Arouf Gangsta ou Gazouza là.
Ah ouais, Gazouza, tu vois, Soulax,
c'est ça. Tout ça. Tu vois, c'est des mecs marrants, ou vas-y, ils peuvent dire une bêtise, tu dis, ouais, il n'y a pas de message, tu vois, ouais, ce que je veux dire, il n'y a pas de truc à diffuser, il n'y a
mais
pas
gros,
de...
Mais en fait, déjà, lui, il fait des... Enfin, certes, il se dit pas... Enfin, pas imam, etc. Mais frère, attends, là j'ai vu ça l'autre jour. Il lance un challenge où il dit aux gens, si vous trouvez une femme qui porte le voile, vous lui arrachez. Frère, il fait la même chose que des fachos. Il veut arracher des voiles. Parce qu'il dit, ouais, il y a des...
Selon certaines, elles
ouais,
le portent mal.
Ouais, elles le salissent, etc. Alors que ça, c'est la plus grosse connerie du monde. De salir le voile, c'est impossible. Alors, sachant que, frère, enfin, bref, c'est un autre débat. Voilà, c'est un débat religieux. C'est un débat religieux à part entière, mais... Mais je veux dire, c'est pas parce que t'as le voile que t'es une sainte qui ne pêche pas, quoi, pour faire court. Mais genre, tu vois, quand le mec il lance des trucs comme ça, tu vois bien que lui-même il veut, entre guillemets, s'engager, tu vois, qui veut, entre guillemets, sauver la communauté. En fait, moi j'ai l'impression, genre, ça c'est mon analyse depuis toujours, ma pseudo-analyse, la psychanalyse des Tim Halim, c'est qu'en fait c'est des gens qui genre ont un sorte, enfin comme tous les rebeux maghrébins, comme tous les immigrés d'ailleurs, même en France, un sorte de déracinement. Forcément, t'as un sorte de déracinement, t'as des questions que tu te poses, machin, etc. Et en fait, eux, ils voient ça comme un retour aux sources, de prendre en fait ce que lui il leur fait croire, comme il est un peu plus âgé, que c'est des traditions.
Ouais.
Il leur fait croire que c'est ça, être un authentique maghrébin. Un authentique maghrébin, c'est par exemple, c'est un homme. Sa femme, elle se marie qu'avec des maghrébins, elle se marie pas avec des noirs. Alors que non, un maghrébin, dans les 3/4, enfin dans les 90% des cas, c'est un musulman, et du coup, sa femme, elle se marie juste avec un musulman, quoi. Enfin, sa femme. sa fille,
et
sa
puis
femme.
Et soit, il y a des noirs au Maghreb.
Non, mais c'est ça.
Checkmate plutôt.
Non, mais c'est ça, genre, du coup, qu'est-ce qu'est censé faire un vrai Tunisien noir? Genre, c'est quoi un authentique Tunisien noir? Il accepte pas que sa fille elle se marie avec un noir alors que lui-même il est noir? Bon, après, il en existe des gens comme ça, hein, au Maghreb.
Des noirs qui refusent d'être
authentiques. Ah oui, mais même dans les pays subsahariens, ça c'est le colorisme en mode il est plus noir que moi, donc il est. Il est en dessous, ouais, il est en dessous, tu vois. Genre moi, ça va. Regarde.
Oh là là.
Et cette question-là, et ce qui est encore plus frappant, c'est que du coup, voilà, toute cette hypocrisie, elle est encore plus puissante avec les femmes, où on demande aux femmes d'être des icônes parfaites. Enfin, là, je pense par exemple aux femmes qui portent le foulard, où à partir du moment où t'es une fille qui porte le foulard, t'es une représentante publique de l'islam. C'est-à-dire que tu ne peux plus rien faire. Si tu fais un truc, enfin, si tu fais l'activité la plus banale possible, on va soit te dire waouh, machallah, elle joue au foot et c'est, elle est voilée.
Et après, petit tweet. Ourti, machin, le truc que
ouais,
tu fais.
C'est ça.
Tu fais du foot, ah, ourti foot, tu fais du domino, ourti domino, tu fais ce que tu veux, tu ourti lecture, ah, lis des livres. Ouais,
et t'as soit ce côté-là, soit de l'autre côté, oh mais regardez, elle porte le voile, mais attendez, elle est maquillée, oh mais regardez, elle porte le voile, mais ouais, on voit un cheveu qui sort, oh mais regardez, elle porte le turban, en fait, c'est pas un voile,
ouais, c'est pas légiféré.
C'est ça, moi je me souviens, j'avais mis un post sur Vraie Meuf, tu vois, où en gros il y avait une campagne de pub d'une marque. Et là, dans la campagne de pub d'une marque, de cette marque, ils avaient mis plein de filles, dont une qui avait une tenue, on va dire, modeste fashion, avec un turban. Et j'avais dit, c'est cool, il y a une bonne, pour une fois, il y a une bonne représentation dans une publicité. Et alors, je vous dis pas le nombre de personnes qui ont dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, elle est même pas voilée cette fille.
Ouais,
mais en fait, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on ait une mode qui soit représentative et on ait une mode qui soit accessible pour ces filles-là.
Après,
et
tu vois, ça, je suis moins d'accord avec toi. Enfin, genre, c'est plus délicat.
En fait, mais... je pense que c'est une première étape, tu vois, à d'autres choses. Mais, oui, genre, vois, oui, arriver temps, au point de vraiment, genre, m'insulter pour me dire t'es complètement conne, c'est pas un voile qu'elle porte, la meuf. Enfin,
il y a un truc chez les femmes encore plus,
en mode où tout le monde, la communauté entière décide de est-ce que toi tu es une bonne personne, est-ce que toi tu es une bonne musulmane, est-ce que toi ton honneur il est là ou pas.
C'est la vidéo. Enfin, je veux juste vous remettre en tête la vidéo de Masqué où il joue le rôle d'un rappeur américain où, tu sais, même il dit hijab is.
Ah, oui,
et
oui.
En gros il dit comment dire, le voile, il est, à travers l'humour, on capte, tu vois, le voile, ça te change pas la personne. C'est toujours la même personne avec du tissu sur la tête. Donc, genre, c'est quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui fait du foot, quelqu'un qui machin. C'est pas une voilée qui machin. Et l'autre axe, enfin, l'autre endroit où ça avait été évoqué, c'était dans la série Dear White People, où il parlait dans un épisode. Il y avait un personnage donc noir américain et un Hotep, je sais pas si tu vois les
oui pires. Oh mon Dieu.
Et
les Hotep,
exactement, ouais. Courant de pensée limite une secte, c'est comme si la Team Halib était, puisqu'on en parlait, était un peu plus intellectualisée, tu vois le délire. En gros, donc t'as ce personnage qui va cracher sur une femme parce qu'elle est métisse, cracher sur un Renoir parce qu'il est homosexuel, et se plaindre de la domination de l'homme blanc par rapport à l'homme noir, et dire à une femme noire, ouais, mais toi, t'es pas pareil, machin. Et cette personnage que j'ai adoré, elle dénonce ce que Lina était en train d'évoquer. Pour les noirs, c'est difficile, mais alors pour les femmes noires, c'est compliqué, parce que déjà que tu te prends la, je cite, tu te prends la merde des blancs, tu dois en plus te prendre la merde des hommes de ta communauté, tu vois. Et cette hypocrisie de... En gros, tu vois, c'est jouer le jeu des dominants.
Ouais.
Genre,
ouais.
C'est hyper facile d'être... c'est hyper facile d'être mauvais avec quelqu'un qui est plus faible que toi. Ouais. Et bah, cette hypocrisie-là aussi, elle me rend vert. Ouais. Genre, quand t'es en position de force, tu te fais exactement ce qu'on t'a fait. Oh là là,
c'est mais pour revenir à un truc, moi, que je trouvais super important, tu disais, Nina, ouais, c'est vraiment le truc de... Enfin, après, la publication là, sur Vraie Meuf en soi, je vois plus. Enfin, je pense que je l'ai vu, mais je me souviens plus. Bref, s'en fiche. Mais c'est plus ce truc-là de genre même certaines filles influenceuses ou quoi qui sont voilées, tu vois, à qui on va venir dire ouais, tu fais ci, mais t'es voilée, tu fais ça. En fait, genre moi je. En fait, genre je comprends, tu vois, ce qui dérange. Je vois le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que, en soi, surtout par exemple, toutes les histoires de turban, machin, nanani, voile, comme ci ou comme ça, bah en fait, Enfin, c'est pas, il y a des étapes, mais il y a des gens qui passent par des étapes, en fait. Et si t'es musulman toi-même, tu vas pas venir. tu vas pas venir bousculer quelqu'un comme ça dans son chemin. En fait, c'est comme si, je sais pas, tu vois quelqu'un à la mosquée qui prie mal, tu vas pas lui dire, mais tu sais même pas prier, rentre chez toi, dégage.
Mais c'est toute la question du rappel violent.
Tu vois, tu vas lui dire, ah, fais gaffe, tu pries pas, enfin, faut faire ci plutôt que ça, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu vas essayer de voir le bien dans ce qu'il fait. Après, il faut pas non plus être forcément bisounours non plus, tu vois, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, genre, même toute cette démocratisation, en gros, de ce que certains appellent un voile swag, quoi, en gros, c'est, enfin, foulard, quoi, en fait. Le foulard des années, c'était les années 70 ou 80, je sais pas, où le foulard était à la mode. Je suis d'accord que, par exemple, une influenceuse qui va le porter comme ça, pas entre guillemets comme il faut, etc., et qui dit, regardez-moi comment je le porte, il suffit de le porter comme ça, c'est ça l'islam. Bah elle, d'accord, elle est blâmable, tu vois.
Il y a personne qui
mais dit personne ne dit ça. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est que personne ne dit ça dans ce sens-là. Tout le monde, elles font juste leur vie et elles l'ont comme ça, et voilà. Et du coup, est-ce que, même si on réfléchit plus loin que ça, est-ce que dans une société où il y a entre guillemets ce voile swag qui est à la mode, que ce soit chez les musulmanes ou non, est-ce que ça va pas être plus simple pour les femmes musulmanes de porter le voile entre guillemets normal? Est-ce que ça ne va pas être plus accepté? Bah, moi, voilà, je me pose la question. Et du coup, est-ce que c'est vraiment contre-productif? Et est-ce qu'il faut se poser à ces gens-là? Moi, je pense pas. Enfin, bref, voilà. Et
Amal, elle soulève une question vraiment intéressante, c'est les rappels violents. Mmh. Et il y a toute cette sous-culture de Twitter, notamment en France, où tu as des comptes de rappels qui stalkent des jeunes femmes sur Twitter. Qui souvent ont des drapeaux du Maghreb dans leur bio, et du coup, voilà, ça, et t'as les gens qui leur envoient des tweets à base de rappels, mais d'une violence, mais vraiment, vraiment horrible.
Et
c'est pas que sur Twitter, c'est souvent, contact les parents, les frères, tu vois, la figure paternelle d'autorité de leur foyer, et vraiment, pour les remettre dans le droit chemin, parce que la position de la femme, surtout quand t'es confronté en tant que maghrébin au regard de l'homme blanc, et quand les femmes musulmanes, elles sont mises sur les affiches du Point et des publications racistes pour dire « Ah, les musulmans, les vilains musulmans aux arabes, ils font ça en France », eh ben la figure de la femme, elle est mise comme étant importante. C'est-à-dire que la femme ne possède plus son corps, la femme représente les autres. Et du coup, t'as cette dichotomie extrêmement fallacieuse de la sainte et de la prostituée, de la mère et de la femme aux mœurs légères. Et tu peux pas sortir de ça. Évidemment, bien sûr, toutes des prostituées sauf ma mère.
C'est un discours hypocrite qui est trop répandu. Ouais, t'as bien résumé ça sur la.
Qui est à la fois nourri par la misogynie des hommes à l'intérieur, par celles qui transmettent aussi à leur fille, et aussi parce que tu te sens observé. Tu te sens observé, du coup, il faut rétablir de la propreté, il faut rétablir la chose au carré dans ta communauté, et forcément ça passe pas par toi, ça passe par les femmes de ta communauté, parce que toi on va pas te demander des comptes.
De toute façon, la question du foulard, c'est une question qui pour moi est profondément féministe, hein. C'est une question, c'est dans tous les cas en fait, que tu portes le foulard, que tu le portes pas, que quoi que ce soit, c'est on juge toujours les femmes selon comment elle est habillée. On reprend beaucoup les filles sur le foulard, on reprend pas trop les gars quand ils portent des shorts par exemple qui sont torse nu, tu vois,
alors qu'il faudrait autant
alors que c'est la même chose,
c'est la pudeur de l'homme qui doit être recouverte, et pareillement celle de la femme. Et il faut au lieu de réégaliser le truc, tu vois, c'est-à-dire qu'on est super dur avec les femmes et beaucoup trop laxiste avec les hommes, en fait on devrait être au juste milieu en fait pour les deux, c'est-à-dire être un peu plus laxiste avec les femmes et plus dur avec les hommes pour atteindre un vrai un équilibre qui nous permet quoi, un truc sain en fait.
Et en ce qui concerne les rappels aussi, moi je tiens vraiment à rappeler aussi que c'est pas que une histoire de Twitter. Enfin, c'est-à-dire que si t'es dans une commu, on va te voir. Après, tout dépend de l'entourage que tu as. Moi, je sais que c'est pas des choses que j'ai connues, mais c'est des histoires que j'entends beaucoup de gars qui vont sortir avec une meuf, ou meufs qui vont sortir avec un mec, ou des potes, ou de quoi que ce soit, qui vont commencer à dire non, mais t'es sérieux, tu fais ça, non, mais t'es sérieux, tu. Enfin, tu vois, genre, il y a plein d'histoires comme ça en mode non, mais comment tu te considères un bon musulman en fait si tu fais ça. Dieu est miséricordieux, on fait tous des péchés.
Et la foi est un chemin.
et la foi est un chemin, et il n'y a pas de... Enfin, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que très souvent, c'est même pas qu'une question de religion, c'est une question de tradition, parce que t'as des questions d'honneur qui rentrent dedans, t'as des questions de, mais comment tu vas salir l'honneur de ta famille en faisant ça, ça, ça. En fait, il y a des trucs qui partent au-delà de la religion. La question de... Enfin, Bassem, c'est pas des questions religieuses, c'est clairement des questions raciales et racistes, tu vois. Et c'est pas qu'un délire de religion. Je pense aussi qu'il faut sortir ça de son contexte, et que même si la religion, c'est le prétexte, c'est beaucoup plus présent. Enfin, cette hypocrisie, elle est beaucoup plus présente dans la communauté.
Bah, on parlait un peu de religion ou quoi. L'endroit où pour moi l'hypocrisie est pas forcément hyper forte, mais dès qu'il y en a un peu, ça me rend malade, c'est les discours de certains mauvais imams, tu vois, genre qui ont parfois des phrases à ne pas dire dans certains prêches ou quoi. Genre, à la mosquée où je vais, c'est pas tout le temps le même imam, tu vois, et j'ai appris ce que c'était qu'un bon imam quand j'ai compris qu'il y en avait qui déraillait sur certaines phrases, genre, qui faisait tout un prêche avec des injonctions qui s'adressaient spécialement aux meufs, alors que c'est valable pour tout le monde. Gardez vos ventres et vos jambes pour Allah, et ce qu'il y a entre vos jambes pour Allah, et Allah il vous gardera parmi les siens. Des bêtises comme ça, genre.
C'est valable pour les hommes.
Et
aussi,
oui, et mais comment
dans
un mec
ventre, ça fait clairement partie.
Exactement. Et non, comment il tourne le truc, et comment il tourne le truc, il te met une pression aux meufs, quoi.
La cible, elle est uniquement féminine.
Ouais, il m'avait bousillé le jour à ce jour-là. Mauvaise humeur après, et donc. En gros, si je vous dis ça, c'est attention. Genre, il y a un discours hypocrite jusque même cet endroit qui est censé être safe. Donc, tendez l'oreille et critiquez ça pour ensuite l'adapter dans notre attitude tous en commun. Et on est, enfin, je suis pas un moralisateur quand je dis ça. Hein. Des fois, je réfléchis bêtement ou quoi. Il m'arrive peut-être même d'être hypocrite sur certains points.
Ouais, et puis après, surtout, c'est pas aussi un truc pour dire que tous les imams sont...
Jamais, je t'ai dit. Genre, oui, c'est en opposition
avec les bons...
Avec le bon imam que j'entends dans la même mosquée la semaine d'après, qui va avoir tout un discours
qui est bien
complètement différent.
Qui est pédagogue, etc.
En gros, c'est... Il y a de l'hypocrisie dans des sphères qui sont précieuses et dans des endroits où on est censé se sentir bien et qu'il faut être vigilant partout, en fait, et se questionner tout le temps. Et lutter contre ça partout. Et c'est un peu malheureux, mais c'est un effort qu'on doit faire.
Et d'ailleurs, je pense que les mecs qui font des rappels sans cesse aux femmes, le jour où on leur fera un rappel, ils cracheront par terre, parce qu'en fait, ça les concerne pas. Les codes vestimentaires peuvent pas concerner ces gens qui sont eux-mêmes au-dessus du lot, car ils ont une croisade de moralisation de leur communauté. Conception de leur rôle.
En fait, moi, c'est ça le truc. C'est exactement le sujet de l'épisode, c'est l'hypocrisie.
C'est l'hypocrisie.
C'est que moi, un gars qui fait 50 000 rappels par jour de manière pas forcément
bienveillante.
Ouais, enfin, genre, mais parce que c'est pas non plus une obligation d'être en mode totalement de prendre 40 000 lignes pour expliquer à quelqu'un.
T'es en droit de dire à quelqu'un qui déconne quand.
T'es en droit de lui dire voilà ce que tu dois faire, fais ça. Et au revoir, merci. Si tu veux le faire, fais-le. Si tu veux pas le faire, t'es entre les mains de Dieu, quoi. Et bah, un gars qui fait ça, mais qui fait. Enfin, qui déjà l'accepte pour lui et qui le fait indistinctement des sexes, moi je m'en fous. C'est parce que. Entre guillemets, c'est sa manière de penser. Moi je suis pas comme ça, tu vois, parce que. Parce que moi je considère que si je veux rappeler quelque chose à quelqu'un, déjà c'est aux gens à qui je tiens. Genre les inconnus, je le ferai vraiment rarement. Et c'est, je le fais du coup en douceur, tu vois. Je préfère en faire peu, mais c'est ma politique, entre guillemets. Lui, il a une autre politique. Bah lui, tu vois, je m'en fous. Mais celui qui, lui, ne l'accepte pas sur lui, qui en gros, comme a dit Théophile, tu vois, qui se sent un peu genre... toi tu connais pas machin truc, ou qu'il fait spécifiquement aux meufs, ou qu'il fait spécifiquement aux meufs qui sont, je sais pas moi, en couple avec des Renois, ou enfin tu vois, bref, tu sens bien que lui il fait pas ça pour la quête entre guillemets de vérité, mais pour ses objectifs.
Et on est quand même sur une des personnes qui enfin, souvent en fait les personnes qui ont ce comportement là c'est des personnes qui pensent avoir tout compris en la religion, alors que il y a des imams qui étudient jusqu'à la fin de leur vie sans jamais comprendre, et que c'est pas possible de tout comprendre. Et je pense qu'il y en a qui sont là en mode non, c'est ça, c'est comme ça, mais il faut que tu fasses comme ça, un point, c'est tout.
Les plus grands imams, un des 4 grands imams, du coup, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref, genre par exemple, on lui a demandé de devenir juge, et il a dit non, j'en sais pas assez. alors qu'aujourd'hui, 1400 ans après, on se base encore sur sa méthodologie et tout, enfin, et c'était une source de savoir énorme. Mais lui-même disait non, j'en sais pas assez, je veux pas imposer mes jugements, quoi.
Il y a une humilité aussi qu'on a beaucoup perdu du coup par rapport à ça. Et je pense aussi au cheikh Imran Hussein qui avait. J'avais vu une vidéo il y a un petit moment où il disait clairement que toute la décadence de l'Oumma, elle était clairement à cause des femmes. Tout ce qui nous arrive là, tout ça là, c'est les femmes. C'est parce que les femmes ne se voient plus autant qu'avant, c'est parce que maintenant les femmes veulent s'éduquer, que du coup maintenant elles veulent quitter les foyers, que du coup bah, les signes de la fin du monde se confirment, parce que machin. Enfin bref, tout, et aussi même par rapport à l'homosexualité, il avait dit comme quoi c'était parce qu'on on éduquait moins bien nos enfants, que du coup il y a plus de ça, et du coup ça confirme encore plus
les signes de fin du monde.
Voilà. Et même tout ce truc de il y aura plus de femmes en enfer que d'hommes, tu vois, les trucs comme ça. En fait, le truc, c'est qu'on oublie toute une autre partie, c'est qu'il y aura aussi plus de femmes au paradis.
Genre, il y aura plus de femmes tout court,
ouais, dans parce la que population c'est juste concernée. Genre, on sera juste plus, enfin, même sur Terre, on est juste plus que les hommes, c'est juste ça, c'est une question de nombre.
Ouais, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, ouais, c'est vrai.
Bah ouais, c'est tout bête en fait. Et en fait, on va vraiment instrumentaliser tout ça pour juste tout mettre sur le dos des femmes.
Ouais.
Enfin, tout mettre, j'extrapole, mais la majorité des problèmes, ce sera sur le dos des femmes, tu vois.
Et en fait, c'est tout simple. Enfin, moi, j'aimerais parler d'un culte et d'un symbole qui est hyper primordial dans nos communautés, c'est la chouma.
Le H-word.
H-word, genre. Là, la chouma, c'est devenu. Enfin, ce mot.
Pour traduire, déjà, ça veut dire honte.
Ouais.
La honte.
Chouma, c'est honte.
Mais ça va au-delà de ça.
Mais c'est en fait, voilà, c'est un concept qui va tellement au-delà de ça. C'est une réponse à tout, déjà. C'est une réponse à tout. C'est-à-dire, je peux pas faire ça, pourquoi ? La chouma.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que c'est la réponse universelle à toutes les choses qui peuvent embêter quelqu'un ou peuvent, tu vois, et genre, concept genre d'honneur familial, mais vraiment genre de chouma, genre la chouma, genre je me demande si c'est vraiment quelque chose de typique de nos communautés. Je sais que chez les Asiatiques aussi, ils ont un sens de l'honneur qui est impressionnant, enfin notamment chez les Japonais, mais je sais pas, vous ça vous évoque quoi, la chouma, quand est-ce que vous avez des anecdotes,
pour commencer en légèreté, la chouma c'est tourner la tête ou chercher en panique la télécommande quand ça s'embrasse à la télé, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, c'est commençons légèrement. C'est petit, tourne la tête. Pourquoi ? Ça chama. Ouais. Tu vois ? C'est cette phrase là.
Non, le pire c'est enfin en fait c'est pas de la chama, mais je sais pas en fait. Gros, c'est quand tu la télécommande elle est pas à proximité.
Oui,
tu vois que tu vas pas avoir le temps et c'est tes parents, tu sais, t'as dépassé l'âge où ils te disent tourne la tête. Et tu dois le comprendre.
Quand je me lève, je pars. Je pars du salon. Je n'ai pas besoin de voir ça.
Je t'abandonne.
Moi, je fais crari. Tu téléphones, machin truc. Tu lances une discussion.
Ça m'a déjà fait quitter une salle de cinéma avec mon père, ça. Ça m'a déjà fait.
Ouais.
Parce que cinéma, pas de télécommande. Hein.
On s'est dit.
Bonjour
avec mon père, qu'est-ce que tu fais là?
En fait,
c'est le sexe.
C'était terrible.
Oh, je suis mort.
Non, y a rien à rajouter là-dessus. Le film, il était pas comme on pensait qu'il allait être au vu de la bande-annonce. On s'est levé, on est parti. Mon père, il voulait péter les plombs.
Mais en plus, ça m'est arrivé un truc comme ça. Je me souviens plus c'était quel film. Pareil, il était pas du tout comme c'était prévu. Et heureusement, j'étais pas à côté de mon daron. Parce que.
Mais vous savez que. Vous savez que ce truc-là, ça a fait que les premières fois que j'ai vu des films pas avec mes parents, j'étais quand même, genre, même avec mes potes, j'étais grave gênée.
Mais gros, encore aujourd'hui, moi, une scène de sexe, ouais, je zappe. Ah, je m'en fous.
Ouais, t'es pas obligé.
En fait, non, genre, la vérité, tu vois, genre, en fait, je vois le début, je fais ok, alors ok, E2, c'est bon, Issa coquine, quoi. T'as capté. J'ai l'information, vas-y, parce que franchement, 2 minutes 15 de bisous, qu'est-ce que
je te check. J'aime trop ce que tu dis.
Oui, je trouve que c'est totalement inutile.
Elles sont mal faites.
Elles sont là pour être là.
En fait, tu vois bien que c'est.
Du voyeurisme.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Exactement.
T'as l'impression d'être en trop et t'as l'impression que c'est là pour te faire baver. Et que tu veuilles payer ton billet alors que moi ça me donne pas envie, gros.
T'es juste mal à l'aise.
Genre, exactement. Et je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais je pense que. Enfin, je pense
c'est
qu'il
à
y a personne.
L'éducation.
Mais je pense qu'il y a personne sur Terre qui apprécie spécialement les scènes de. Enfin, je sais pas.
Hein. Le mec derrière la caméra.
Ouais.
Non, même pas, hein.
Gros,
non, mais je veux dire, le mec qui commande la scène.
Ouais, les gars comme Keshish, là. Les gars comme Keshish ou les gars comme.
Keshish
ou comme il s'appelle.
Quand t'es dans les films de Keshish, c'est extrêmement malaisant. Parce que c'est des choses qui n'ont rien à faire dans le scénario, qui sont juste là pour le plaisir de Keshish.
Ouais.
Et en fait, t'es juste de trop dans cette salle, dans la salle de cinéma.
Mmh. Ouais, et moi, j'ai vraiment l'impression, comme je disais, que c'est un truc plus général, quoi, pour les scènes. Les scènes ham-ham.
Oh my god.
Attends, regarde ça. je veux pas être le seul à dire des bêtises.
Les scènes. Garde, les scènes HHTM. Eh, ça me fume les gens qui se disent le hashtag pour
moi. Hashtag milkshake.
Hashtag milkshake, putain. Non, mais tu vois, genre, c'est ça, genre, je prends l'information comme quoi un tel et un tel s'entendent plus qu'amicalement.
Et c'est tout.
Et c'est tout, tu vois, j'ai pas besoin de la suite pour de savoir ce qu'ils ont fait exactement pour l'histoire.
Et c'est pour ça que Bollywood a autant explosé dans le Maghreb.
Quoi, c'est vrai. Les séries turques aussi, mais j'ai vu comme quoi ils censurent. J'ai déjà vu un épisode de
série turque qui a dû.
Vite fait. J'avais vu un épisode d'une série que j'avais déjà vu sur 2M et je l'ai revu en entier et tout, genre sans les coupures, et j'étais en mode il nous cache ces choses en fait. Et d'un coup en fait j'ai commencé à faire un peu plus attention à ces épisodes sur 2M, et c'est vrai que dès qu'il y a des visages qui s'approchent, bim, coupure. Là j'ai commencé à repérer
un peu
tout ça.
J'ai une anecdote, je sais pas si ça peut sa place sur l'hypocrisie, mais c'est par rapport à la censure sur 2M, je suis mort. Genre c'était un Hajj qui racontait ça en fait à Casablanca à l'époque, il y avait beaucoup de cinéma sous les Français et tout. Et en fait, il passait un film, je sais plus ce que c'était, mais c'était un western, quoi. Et le gars, il rentre dans un... dans un saloon. Tu vois, bonhomme, cowboy, il rentre dans le saloon. Il va au bar, je sais plus ce qu'il lui dit. Genre, il me dit, mets-moi un verre, tu vois. Et il était doublé, le truc en arabe et tout, pour en Darija. Et du coup, il était aussi censuré, parce que du coup, quand il le sert... Il lui sert un verre de lait au lieu du verre de whisky.
Okay, voilà.
Et genre, il boit un cul avec un verre de lait et il le repose en mode bonhomme. Ouais,
je suis une grosse caisse.
Et ça m'éclate rien d'imaginer la scène, tu vois. Et que du coup, les gosses étaient comme ça devant, tu vois, ils captaient pas. Oh,
mais
non,
c'est
lourd.
Mais c'est dans Shrek où il y a une scène comme ça, le chapeauté.
Ouais, je crois, oui.
Ah ouais, putain, ça date.
Donc ouais, bref, l'Arshuma.
Ouais, voilà, repartons du coup sur l'Arshuma. Du coup, tu parlais, on parlait des scènes du coup de le cinéma turc et du coup Bollywood.
De Bollywood, à quel point en fait Bollywood, eux, ils ont réussi à trouver la bonne recette qui fait que en fait, on n'a pas besoin de voir ces scènes-là, donc du coup, on peut très bien regarder un film et comprendre un film sans ça. Je pense que tout simplement, ça fait vendre et que c'est pour ça, vois, que c'est là, clairement. C'est intéressant aussi de constater genre les différences, le fait que tu vois, nous on est tous d'accord pour dire que ouais c'est un peu gênant et tout et que ça sert à rien, mais il y en a plein qui disent oh mais
ça
non,
gêne pas,
ça
c'est
rien du tout,
ouais je sais pas,
et, mais moi
ouais,
quand
sûrement qu'il y a des gens que ça gêne pas,
quand je parlais de quand je parlais de Hshuma, je pensais même à encore plus que ça, tu vois. Je pensais même à je dis n'importe quoi, tu rates tes études, la Hshuma,
ouais.
Tu te maries pas avec un mec de ton pays, la Hshuma. Tu vois, c'est que en fait c'est une sorte de code qu'on te donne, familial, de règles familiales et traditionnelles, culturelles, de règles de vie,
ouais,
qu'on t'impose et qu'on te dit non mais si tu suis pas tout ça en fait.
Mais c'est même...
La punition, ce sera la Hshuma sur toi.
Et sur ta famille.
Et sur ta famille.
Surtout.
Oui, parce qu'on ne peut pas te faire culpabiliser que tout seul, c'est pas drôle. Sinon.
Et la conséquence directe, dans bien, hélas, trop de culture, c'est le crime d'honneur. C'est quand tu finis brûlé au dernier degré, c'est quand tes frères, ouais, ils viennent, ils te tuent, parce que voilà, t'as apporté l'opprobre sur deux types, voilà.
Après, et je sais pas encore à quel point ça existe encore.
Dans le... Oui, non, mais il y en a encore. Malgré, mais je veux dire à quel point, ouais, voilà, c'est
ça, les statistiques. Un petit peu baissé.
Inde,
mais
je vois vachement
de trucs qui passent.
Après, c'est pas homogène dans toute l'Inde, évidemment.
Je me tais.
Et au Japon, le taux de suicide aussi.
Ouais, là, tu vois, au Japon.
Oui, c'est vrai qu'on parle, ouais.
En Corée du Sud, il y a un truc énorme avec leurs études. Genre, ouais, si t'as pas réussi tes études et que. Enfin, tes études, ton bac, en gros, ils ont un bac. Là-bas, là, t'as tout le pays qui s'arrête. Les avions ne décollent plus. La police peut t'emmener jusqu'à ton lycée. Y a plus aucun bruit. Genre, le pays arrête de marcher le temps de l'examen. Parce qu'il faut que ça soit optimal pour les élèves. Et c'est simple. C'est cet examen-là qui va, en gros...
décider de ta vie.
Voilà. De la fac dans laquelle tu seras. Le but, c'est les meilleurs, c'est les Sky. Et en fait... Toute leur vie, les gosses, on leur apprend qu'il va falloir que vous déchiriez tout durant cet examen-là. Tu vois.
Ouais, ouais,
et si tu te rates,
prépa,
si tu te rates, ta vie est terminée, ouais, d'où le taux de suicide. Si tu gères pas trop tes études, il y a moyen que tu te rates à ce bac-là, bah, tu vas peut-être. Enfin, il y a beaucoup de suicides. Et il y a tellement un taux de suicide énorme qu'il y a un pont à Séoul où il y a plein de phrases en fait sur
tout
le
pont.
Ouais, de phrases en mode pas, ouais, genre saute pas, il y a des gens qui t'aiment, tu vas y arriver, tu vois, il y a des patrouilles en fait sur le fleuve et sur le pont pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va tomber, tu vois. Et t'as des gens aussi qui surveillent en mode ouais, s'il y en a un qui veut tomber, qu'on l'arrête et qu'on lui parle, ouais, tu vois. Mais c'est énorme.
C'est Corée-Japon, ils mettent vachement ça sur...
Enfin, en Corée. Même... Là, je parlais de la
Corée du Sud. Je sais que le Japon, t'as vachement aussi de pression et de...
Ouais, qu'ils se mettent sur eux-mêmes.
Du personnel, mais dans le
c'est
thème...
C'est plus dans le travail, même, ça, j'ai
dans le travail aussi, ouais. Sur le thème misogynie et hypocrisie, en fait, t'as aussi ton honneur, tu le déportes sur... Et la responsabilité directe de ton honneur en tant qu'homme et de ta virilité, tu la déportes sur le membre féminin de ta famille, ta mère, ta sœur, ta cousine, et ouais, c'est giga chaud, en fait. T'as des gens qui sont pas capables d'assumer leur masculinité parce que ben, y a une femme qui décide de faire autrement que ce qu'il faut faire. Que, entre grosses guillemets, parce que, évidemment, tout est bon à brûler ta sœur au dernier degré. Enfin, c'est horrible.
Mais ce que je voulais dire, ouais, quand tu disais, Nina, sur la Hshuma, que c'est un ensemble de codes, etc., je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est un code de conduite collectif. Je pense que même nos parents, quand ils en parlent, et nos grands-parents, et leurs arrière-grands, ils savent pas exactement ce que c'est. C'est un ensemble de valeurs, genre, qu'on s'est transmis, et il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, tu vois, je pense.
Et c'est variable.
Genre, par exemple, ouais, exactement, c'est ça. Tu vois, par exemple, tous les trucs que je faisais à table, machin, qu'on me disait Hshuma, mais heureusement que je les ai arrêtés, wesh. Frère, enfin, tous les trucs de Hshuma à table qui sont interdits, c'est des trucs que de manger comme un animal, ça...
C'est
Hshuma, tu vois, genre, et heureusement.
Ouais.
Mais tu vois, genre, c'est aussi des trucs de... En fait, la Hshuma, c'est aussi lié à l'autre face, c'est l'adab, la bienséance.
Ouais.
Qu'on peut traduire ça comme ça un peu, ouais. Enfin, le fait d'être bien élevé, quoi. Ouais. En gros, c'est en mode, enfin, oldness, machin truc, nanana, etc. Bah, c'est un peu l'inverse, ouais. L'inverse de la personne qui met la Hshuma sur sa famille, c'est oldness, quoi. C'est,
ouais.
C'est,
ouais,
le gosse parfait, machin et truc, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, enfin en fait je pense que c'est
en fait, on peut même pas dire si c'est bien ou c'est mal, tu vois, au fond, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est un fourre-tout, c'est tellement un fourre-tout,
en fait. Très, très
large. On met des choses dedans que, en fait, on fait pas par raison religieuse, des choses qu'on fait pas par raison traditionnelle, des choses qui sont purement misogynes, des choses qui sont juste de
du bon sens.
Ouais, voilà, du bon sens. Genre, tu vois, s'asseoir par terre, genre, Chouma, tu vois, ma mère, elle me voit assis par terre.
Sérieux?
Non, mais en mode. Genre, à un endroit où t'es pas censé.
Ouais!
Genre, un mariage, tu t'assois par terre.
Genre, là, non, mais genre, par exemple, là, j'attends. Par exemple, si je dois attendre un pote pendant 5 heures, frère, devant une gare et je m'assois par terre, ma mère, elle me fait Chouma, genre, tu vois, pourquoi tu t'assois par terre, tu vois? Alors que, genre, j'ai des potes, ils vont pas avoir de mal à le faire, tu vois. Moi, bon, ça m'arrive, tu vois, du coup, mais j'ai du mal.
Mais je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux
dire? La Chouma, ça englobe des trucs un peu trop. Éloigné, type manger comme un animal, comme tu l'as dit,
ouais,
genre c'est logique. Clem Leib, genre être vulgaire
c'est
en
ça,
public,
tu vois.
Et des trucs, des trucs un peu plus hardcore, type rater sa vie, alors que c'est pas
ouais,
ça.
Ouais,
voilà.
Rater sa vie, c'est juste rater ses
études.
Rater sa vie selon les attentes
oui,
qui sont elles-mêmes discutables.
En fait, c'est tes études, ton mariage. Si tu rates tes études ou ton mariage,
c'est ce que j'allais dire. Si tu vas encore plus loin, épouser une personne qui ne correspond toujours pas aux critères. Qui sont eux-mêmes discutables et critiquables selon les circonstances.
C'est
aussi l'archoma. Et donc, ce thème-là, ça devient une espèce de gaine mentale sur ton comportement, qui parfois est très bien, comme tu dis, c'est un garde-fou.
C'est ça.
Mais c'est aussi une espèce de camisole pour des situations
en fait,
qui ne doivent pas l'être.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça nous rend. Enfin, après, je pense que c'est plus peut-être les meufs qui sauront mieux dire, parce que j'avoue que elles portent plus ce poids, tu vois. Mais genre, je pense que autant que ça nous pèse, ça nous forge, tu vois, un peu, en fait.
Je suis complètement d'accord.
Genre, ça fait de nous qui on est et ça nous donne des valeurs. Enfin, t'as des choses qu'on pourra jamais accepter, et on va pas forcément savoir d'où ça vient, tu vois. Mais c'est notre bagage culturel et qui vient avec, tu vois. Et en même temps, ça nous permet d'avoir, genre, tu vois, tous les trucs de... La famille qui se déchire en public, tu vois. Genre ça, tu verras... Enfin,
jamais.
Jamais tu verras ça. Parce que c'est à chouma.
Ouais.
Parce que c'est à chouma de dire je parle plus à mon grand-père, tu vois. Genre un arabe qui parle plus à son grand-père ou qui va pas voir son grand-père ou ses machins trucs. Genre, il y en a, hein, bien sûr. Et je sais pas ce qui les a poussés à ça. Enfin, il y a des situations. Voilà.
Je vois ce que tu veux dire.
Je suis pas dans toutes les familles. Mais juste, en tout cas, ils vont pas le partager comme des Français plus de souche, comme on dit, vont partager, vont pas avoir de problème à dire « Ouais, moi, la famille de ma mère, la famille de machin, nanani, un tel dans la famille, je l'aime pas. Voilà. » Nous, c'est bizarre de dire « Un tel dans la famille, je l'aime pas. » Tu le dis en famille, mais de le dire à quelqu'un, de pas la famille, de dire « Ouais, lui, un tel dans ma famille, c'est un gars pas bien. » Tu le dis pas.
Ouais,
tu vois, c'est l'honneur de ta famille, tu dois pas le dire.
Ouais.
Ça va dépendre encore une fois. Genre, moi, si j'aime pas quelqu'un, je vais le dire. Même si c'est Hachouma ou pas, parce que j'estime que. Bon, en fait.
Ouais, mais
t'as mérité le fait. Enfin, après, je vais le dire à mes amis proches.
Ouais. Oui, mais ça, c'est rien.
C'est
ça
que je. Mais après, t'as dit, genre, la préservation de l'honneur par rapport à ça. Enfin, si c'est mes potes, j'en ai plus rien à foutre.
Ouais, mais tu feras pas de scandale.
Ça, c'est encore différent pour moi, parce que là, on est. Enfin.
Là,
du coup, dans cette histoire
de
famille, c'est parce qu'on a des cultures qui sont très portées sur la famille et qui ont des grosses valeurs familiales. Mais bien sûr que dans ce concept-là a amené énormément de choses. En l'occurrence, l'épisode s'appelle « Hypocrisie, misogynie ». Donc, on est surtout sur les choses néfastes qui sont justifiées, en fait.
Ouais.
Je vois ce que tu as sur comment on utilise la chouma pour...
C'est ça.
Ouais,
mais
ouais.
Tu vois, ça va même au-delà de ça. Ça va, je choisis un autre mode de vie. CF, je deviens artiste, tu vois, je sais pas.
Ouais.
De ouf. Chouma de ouf.
Ouais, non, c'est ça.
Donc,
artiste, c'est chichi, ça se dit en arabe.
Il faut que je vous raconte un truc. Ma grand-mère a voyagé, mais tout récemment. Et dans l'avion. Elle s'est retrouvée assise à côté d'une dame d'à peu près son âge. Elles ont échangé. Et c'était une arbia, là, si tu vois. Et la femme à côté d'elle lui dit « Mon fils est footballeur. » Je vous dirai en off, qui c'est ? C'est un très, très grand footballeur. Et c'est limite si ma grand-mère, en fait, c'est pas le genre de choses qui l'impressionne, tu vois. Et donc, en gros, elle a pas été impressionnée pour ça, parce que dans sa tête, c'est pas un mode de vie qu'elle...
Ouais, qu'elle veut pour ses enfants.
Exactement.
C'est pas un truc goal.
Genre...
Sans mauvais jeu de mots.
J'irais...
Avec mauvais jeu de mots.
J'avais pas qu'à là. Mais en gros, tu vois, genre... Pour revenir sur le mode de vie, c'est pas Shuma, mais... Presque, genre, pas de quoi être fier, tu
ouais,
vois.
Ouais, 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 ouais.
Footballeur, il est pas médecin. Elle donc
ouais, c'est ça, footballeur, c'est pas Shuma. C'est pas encore dans la Shuma zone, c'est dans la...
Moi.
C'est ça. Il gagne de l'argent de coquet.
Ouais, tu vois, c'est ça.
Petite référence à footeuse.
Le chanteur, chanteur.
Petite référence à footeuse où la petite fille, elle, avec sa mère, elle dit, bah voilà, c'était pas un avenir que je voulais pour ma fille.
Ah, putain, et puis,
j'ai vu le truc. Et en fait, il y a de l'avenir dans ça. Et en fait, la mère, elle a complètement, radicalement changé d'opinion dessus quand elle voit sa fille. Bah, surtout quand elle voit sa fille qui, voilà, qui prend du grade, qui part et tout, qui joue dans des niveaux encore plus élevés. Et les gens du quartier, ben, ils se la bouquent un peu plus sur ça parce qu'avant, ils étaient trop prompts à critiquer.
Ouais, au final, il n'y a pas eu cette chouma. Il y avait une attente de ça et au final, ça n'arrive pas.
Et que la petite fille, aujourd'hui, elle est en équipe de France et au PSG aussi.
Surtout, ouais.
Mais ce truc-là, c'est... aussi, encore une fois, ce milieu, on va dire, il a accepté quand ce mec-là, footballeur, réussit. Hein. Mm-hmm. Parce que s'il continue à jouer, genre, en national...
La vérité, c'est que je sais pas comment ça se passe dans les autres communautés. Hein, si un gars finit footballeur en national, la vérité. Hein.
Hein,
je crois que c'est universel. Comme
ouais, footballeur comme en national, tu vois, c'est pas vu de bien de ouf dans n'importe quelle communauté, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est la Ligue 2, enfin c'est pas la Ligue, c'est la 3ème même. Mais je veux dire, c'est un peu genre. Tu sais, c'est comme si. Je sais pas comment dire.
Ok, je vois ce que tu veux dire.
Genre, c'est comme. C'est comme t'es chanteur, mais tu vis de. Tu sais, des trucs dans les bars, machin, tu vois, genre.
Ça, ouais.
C'est vu pas bien. Enfin, parce que ça fait moins stable en fait.
Ouais, je comprends.
Même si c'est stable, hein, de te bosser en national et tout, t'as un salaire mensuel, hein.
Ouais.
T'as un salaire propre.
T'es
à l'aise, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est l'image que les gens en ont, tu vois. C'est que t'es un footballeur de district, quoi.
Y a
genre en mode que tu joues le lendemain.
Ou pas.
Genre, tu t'es fait une soirée jusqu'à 5h du matin et tu joues le lendemain, quoi. Genre, les gens ont l'impression que c'est ce foot-là, tu vois, alors que pas forcément.
Petit aparté, l'équipe nationale d'Islande, où tous les joueurs de football, ils avaient les tafs à côté, ils ont posé leur congé pour aller jouer.
Pas tous, il y a beaucoup de pros.
Ouais.
Mais le coach, c'est un dentiste.
On
s'éloigne.
Ouais.
Mais, du coup, je voulais parler aussi d'un autre plan de pan. Comment on dit ? Un autre pan de l'Archuma. C'est-à-dire que dans ma zone géographique, enfin, chez moi en tout cas, c'est un peu Archuma. C'est un peu serre Archuma de divorcer, par exemple. Quand tu parlais de bon côté de l'Archuma, tu vois, ok, ça nous inculque une étiquette, etc. Mais du coup, il y a beaucoup trop de trucs négatifs.
Ouais.
Je pense au divorce, je pense à même les études des filles. Genre, il y a des gens que je connais, tu vois, qui sont très très proches de moi. Elles n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient parce que du coup, pour étudier, elles devaient aller loin
Et ça, c'est
fou, moi, personnellement, mes parents, ils sont assez contre le fait que j'aille étudier autre part qu'à Paris, ou même que je travaille autre part, ou même pour un Erasmus ou quoi. Pour eux, c'est chouma. Une fille habiter seule, elle va forcément ramener des garçons à la maison.
Mais tu vois, typiquement là, si tu donnes un super exemple, genre de comment c'est la frontière est fine, tu vois.
Elle est trop fine.
Genre, parce que regarde, tu parles le divorce, c'est chouma. Or, le divorce, dans l'islam, c'est totalement autorisé.
Enfin, bah ouais,
c'est
non,
un dernier recours.
Parce que là, du coup, c'est
mais
culturel.
Voilà, c'est totalement autorisé. Et une femme veuve n'a pas, ou un homme veuf, n'ont pas l'un ou l'autre moins de valeur. Ou, voilà.
Pas du tout, ouais.
Mais, par exemple, le truc d'habiter seul, ça, tu peux le justifier religieusement. Tu vois,
mais en fait, quand on enlève tout le côté religieux...
Mais sauf qu'à côté, ça justifie des trucs qui ne sont pas religieux. Donc, c'est pas... Donc, on voit bien que ça n'a pas une base religieuse, tu vois. Mais que ça justifie certains. Enfin,
après, en fait, il y a des moments où tu peux pas faire autrement en fait. Quand tu dois
étudier
aux États-Unis, tu vas ramener avec mon père, tu vois.
Non, mais bien sûr, de ouf. Non, mais après, de toute façon, moi, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Faut aller voir des chers, des imams pour savoir.
Sur la question du divorce, c'est parce qu'on attend de la femme de sauver un peu le couple.
Non, on attend de la femme le sabre. elle doit être patiente.
L'endurance, ouais.
Elle doit être endurante. C'est pas grave si ton mari te bat, c'est pas grave si ton mari est alcoolique, c'est pas grave, c'est ton mari.
D'accord.
Il faut que t'aies du sabre, il faut que t'aies de la patience. Et en fait, justement, de ceux que je connais qui peuvent pas divorcer, elles se disent, ouais, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, je me suis mariée, je peux pas divorcer, ok, mon mari, c'est pas une personne bien, ben, je vais devoir supporter. Parce que c'est comme ça. La question, c'est je vais aller où après ? Mes parents, ils voudront plus de moi parce que c'est chômage.
C'est ça.
Je serai une vieille fille. Genre une fille déjà utilisée et tout. Ouais. Enfin bref, t'as tout ce truc
pour
de l'art chômage encore,
ensuite,
tu vois. T'as déjà été touchée.
Ta valeur, elle descend.
Elle a grave diminué sur le marché.
Plus personne ne voudra de toi. Avec un gosse, impossible. Ouais. Enfin, quasiment impossible.
Si t'as un gosse, c'est encore pire. Parce que c'est ton gosse. En fait, il y a plein de trucs comme ça. Et même des fois, les frères peuvent être du côté de leur sœur ou quoi. Et parfois, t'as le père, il est en mode non, j'en veux pas. Comment ça, elle revient pourquoi c'est bon, je l'ai donné une fois, elle revient plus.
Ouais, ça,
c'est une bouche en trop à nourrir.
Ouais, en fait, je vois. Et surtout, si t'as un enfant, les hommes, ils voudront pas élever un fils qui est pas leur, un truc comme ça.
Oui, ça,
ouais,
ça
aussi, il y a tout ça.
Ouais,
et parce que, aussi, en général, les filles, genre, elles se retrouvent coincées parce qu'aussi, on les a retirées de leurs études. Tu vois. Du coup, elles n'ont pas de diplôme, elles n'ont pas de salaire, elles n'ont pas de travail, elles n'ont rien du tout, elles peuvent aller nulle part. Et du coup, ouais, t'as plus qu'à être patiente, en fait. Parce que c'est bon, c'est coincé, t'es fini.
Ok.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'associations, du coup, qui font des hébergements de femmes,
femmes
célibataires.
Ouais, les foyers de femmes battues.
Non, même pas forcément
battues. Ah, tu parles de femmes célibataires.
Ouais, femmes célibataires, parce qu'il y en a pour des raisons X ou Y, plein.
Ça va au-delà de notre communauté, en fait, ce qu'on est en train de citer, genre, c'est vraiment des aides, genre, pour des femmes qui ont, pour les relancer, en fait.
Oui, non, mais je parlais pas forcément, je parlais même au bled, hein.
Au bled,
genre, ouais, il y en a
t'as
beaucoup.
T'as des refuges,
ouais, et ce qui se fait aussi un peu, mais ça, il y en a pas assez, c'est, pour répondre justement à la question des études et tout, des filles. Parce que souvent, bah, quand t'as la moitié de nos pays, en tout cas le Maroc, c'est 40% rural, quoi, encore. Donc du coup, en gros, bah, plus tu vas loin dans les études, plus tu vas loin de la maison.
Exactement.
Donc l'école, tu y vas, c'est à côté. Le collège, ça fait un peu loin, mais t'as ton frère qui t'accompagne, ok.
Le lycée,
ça commence à être tendu, et en plus, tu commences à avoir une petite corpulence pour aider pour les chants, etc., machin truc. Bon, vas-y.
Puis les facs, bah, c'est régional.
Les facs, faut aller en ville. Donc on va pas te voir pendant un mois, deux mois, trois mois. Et en fait, ils essaient de construire parfois certains foyers, spécifiquement féminins, machin et tout.
Ok, mais... je vois.
Même mais... si c'est féminin, elle peut en sortir. Tu sais pas ce qu'elle a.
Oui, voilà, c'est ça, c'est que ça reste toujours ça.
C'est ça.
Moi, de ce que j'ai vu, souvent c'était même les mères qui s'inquiétaient
le
plus. Enfin, il y a en vrai, c'est. Ça n'a pas forcément.
Ça m'étonne pas,
parce que de toute façon, ça se transmet, entre guillemets. Ouais, c'est l'éducation qui se transmet, etc. Et donc, c'est elles comme ça qu'elles conçoivent le fait d'être femmes et qu'elles conçoivent que leur fille devienne femme.
Alors, c'est bon, tu sais lire, tu sais écrire. C'est...
Ouais. Tu ne
commences pas à en vouloir trop.
Bah, c'est même pas...
Et de là à vouloir un métier, tu commences à. Oh, du calme.
Mais en fait, je comprends. Parce que parfois, genre, je vois le total inverse. Genre,
mais en fait, ça dépend de ta famille,
ça
dépend de
l'âge. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que je vois pas.
C'est une campagne.
Ouais, je vois des hajas, c'est total l'inverse. En mode, elles sont avec leur petite fille, mais jamais, jamais tu te maries alors que tu travailles pas encore.
Par exemple, ma mère, elle est comme ça.
Va à l'école, va machin. Parce que moi, de mon temps, j'avais pas le droit. Tu vois,
mais sinon, il y a ça, genre, ok, faut que tu travailles, faut que tu aies des études et tout, mais pas trop loin.
Ouais.
Là, c'est quand ça allait trop. Non.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Trouve un truc à côté. Une fac, ouais, mais vas-y, non.
Ok,
c'est bon,
ouais.
Trouve un truc à côté. Tu vois.
Ouais.
Il y a beaucoup aussi d'hypocrisie là-dessus.
Ok, ouais,
des femmes elles-mêmes.
Ouais, bah, tout de suite.
Après, moi, du coup, ma famille et des gens que je connais en général sont issus d'un milieu rural. Du coup, je parle vraiment de ce genre de personnes-là. Ceux de la ville, enfin. Tout cela, même il y a un facteur argent aussi. Plus t'es riche et plus en général t'es ouvert d'esprit et tout, tu vois. Enfin, c'est ce que j'ai vu, en tout cas dans ma famille. Ceux qui sont le plus riches sont les plus ouverts d'esprit.
Ouais,
les
mais après,
moins
ce
riches.
Qu'on appelle ouvert d'esprit, c'est occidental, quoi, en gros.
Même pas occidentaux, c'est
pas
ça.
Ça dépend.
Imagine juste tout pareil que les rebeux. Mais sans ce qu'elle vient de décrire
en fait,
de pousser ta meuf et. De pousser ta meuf, pousser ta fille.
et à étudier machin, mais pas trop, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Bah, imagine que t'es juste là à la pousser à fond. Ça, c'est, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit de famille fortunée.
Ok, oui, non, d'accord sur ce point-là. Mais parce que, bon, parce que souvent, dans l'amalgame entre ces deux trucs, il est très.
Ouais,
on le fait très vite. Ouais. Enfin, je veux dire, et nous qui sommes entre les deux,
en gros, on doit faire attention genre, à ça. Genre, vouloir la même réussite pour ton fils et ta fille.
Ouais,
et,
ouais.
Les aider de la même manière.
Ouais, ouais, c'est ça.
Que je dirais.
Ouais, ok. Mais oui, c'est vrai que oui, ça, y a clairement un facteur argent totalement avec.
On va s'arrêter là et faire une pause musicale. On va passer un son de Lolo Zouai. Pour ceux qui sont passés à côté de cette chanteuse, bah, clairement, vous avez raté. mais c'est toujours... Non, mais c'est toujours le moment de se rattraper. Moi, je l'ai découvert il y a 2-3 ans, je crois, avec le son qu'elle avait sorti sur YouTube. Et en fait, elle avait sorti un EP qui était génial. Et donc, c'est une chanteuse américaine d'origine franco-algérienne. Et elle a sorti un son qui s'appelle Desert Rose. Et on ne sait pas s'il a été tourné. Le clip a été tourné à Essaouira au Maroc, un peu en Algérie. Enfin, je pense qu'elle a dû faire un peu les deux. Et voilà, c'est un magnifique son. On écoute Desert Rose de Lolo Zouai sur la table.
Inshallah, that's what you say. You think I lost my faith. You won't speak my name. Forbidden, won't see you again. I chose a life of sin. Wish you could forgive. I got sharp edges, I get defensive. Too lost to care, middle finger in the air. I'm sorry that I scared ya. Be my protector when I cross the Sahara. Take me there, take me there. Too lost to care, middle finger in the air. I'm sorry that I scared ya. Be my protector when I cross the Sahara. Take me there, take me. That's all I want. Hold me up.
Chouf, les recommandations. Je vais commencer comme d'habitude en vrai. Moi, ma recommandation, elle n'a pas trop de rapport avec le sujet, mais quand même un petit peu. Je voulais parler d'un collectif qui s'appelle Muslim Sisterhood. C'est un collectif anglais, du coup. Elles sont basées à Londres et en fait, elles font des éditos et des fanzines, magazines, où elles font beaucoup. En fait, elles shootent des jeunes femmes musulmanes. Jeunes femmes et non-binaires musulmanes à Londres. Et leurs shoots sont super beaux. Elles parlent aussi de plein de sujets liés à la communauté, etc. Et en fait, je trouve ça très, très cool de faire passer tout ça à travers les photos. Et j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de version de moi, mes copines, mais en même temps la taille aussi un peu, genre dans un autre pays, du coup dans un univers parallèle, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et voilà, donc moi c'est ça ma recommandation. Vous pouvez regarder Muslim Sisterhood sur Instagram. Amel.
Alors moi ma recommandation ça sera la BD de Sanaka, Le Silence des Étoiles, qui est une BD absolument énorme. Et du coup Sanaka je pense elle est hyper connue sur Insta. Du coup, sur son compte Instagram Sanaka, elle a fait beaucoup de dessins, dont une bannière avec plusieurs femmes avec différentes ethnies et religions. Et du coup, je conseille sa BD parce que du coup, elle parle de sa condition de femme. Sa BD est surtout sur son ghosting et du coup sur son chagrin d'amour, sur comment elle a géré sa rupture qu'elle n'a pas choisie. Et du coup, ça parle aussi d'hypocrisie et de plein d'autres sujets. Du coup, ça n'a pas trop de rapport, mais ça a un petit rapport quand même avec le sujet du jour. Voilà.
Zied.
Alors du coup, moi, ma recommandation, ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais allez, écoutez quand même. C'est un classique. Et si vous n'allez pas écouter, écoutez, tant pis pour vous. C'est Sobri de Leslie et Amine. Un son classique de chez Classique. Et même un Sobri 2. Mais bon, la version 1 est la plus classique. Et malheureusement, Leslie, je crois que je l'avais dit dans un autre épisode, ça doit être l'Arab Love peut-être, n'est pas maghrébine. Elle a fait du maghrébin fishing toute sa
vie.
Gros, je te jure. J'ai appris ça, j'ai
les copains, choqué,
déçu. Oui, c'est vrai qu'elle s'appelle Leslie.
Mais je sais pas,
quand j'étais petit, je pensais qu'elle était rebeu parce qu'elle était qu'avec des rebeux. Et elle chantait en moi. Tu vois, les vocabulaires.
Pour moi, elle était rebeu.
Et du coup, en vrai, je pense qu'elle en a pas tant joué que ça, mais bref. De toute façon, big up à elle. En vrai, elle a fait des bons sons, donc elle est pardonnée.
Théophile.
Ma recommandation, c'est le bouquin de Zainab Fasiki, Shuma, justement, très en lien avec le thème de l'épisode. Aux éditions Masso, Zainab elle est passée sur pas mal de plateaux, pas mal d'interviews pour la promotion de son livre qui est absolument formidable je trouve, qui lève en fait le voile et qui pointe du doigt, qui met le doigt sur le tabou du genre, du corps de la femme, de la sexualité de la femme, de la vie de la femme donc, dans son pays au Maroc, et qui à la fois lève beaucoup de questions mais aussi qui répond de façon assez franche et assez puissante. Et voilà, vraiment une très bonne lecture avec une couverture extrêmement marquante.
Sid.
Pour moi, ce sera le son de Akila, un chanteur que je connais personnellement et qui est très très fort. Son son s'appelle Dilemme. Ça parle un peu de l'hypocrisie dans certains types de relations et donc je vous recommande d'écouter ça.
La Zay est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Kauter, Sidox, Zied, Amel, Nesrine et Théophile. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver en barre d'infos. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud en tapant Latay, LATAY sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et Twitter, @LATAYPodcast. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.